débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre débat. Ce sont des possibilités qui, il y a quelques années, appartenaient encore à la science-fiction. Une brosse à dents qui vous incite à vous brosser les dents plus longtemps. Un appareil placé dans votre voiture qui vous dit de ralentir ou de vous arrêter car vous êtes fatigué. Eh bien, aujourd'hui, tout cela existe grâce aux objets connectés, ces puces électroniques capables d'absolument tout calculer et qui pourraient bien envahir notre quotidien dans les années qui viennent. Selon les prévisions, en 2020, il devrait y avoir 50 milliards d'objets connectés dans le monde, mais cette évolution pose d'importantes questions d'ordre éthique. Tous ces appareils n'entraînent-ils pas une déresponsabilisation de l'individu? Alors que s'est ouvert ce matin à Hanovre, en Allemagne, l'un des plus grands salons au monde consacré aux nouvelles technologies, nous posons ce soir cette question. Les objets connectés sont-ils un bien-être dans notre vie ou une menace pour nos libertés? Deux invités en studio pour nous répondre. Bernard Benhamou,
bonsoir,
secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique. Et Alexis Normand, responsable du développement santé de la start-up Withings, championne française des objets connectés liés à la santé. Bonsoir.
Bonsoir.
Une étude résume selon moi l'enjeu de cette évolution. Plus de 83% des Français s'inquiètent de l'usage qui pourrait être fait de leurs données personnelles avec les objets connectés, mais 45% accepteraient que ces données soient utilisées en toute transparence, moyennant une contrepartie financière. Je vous pose la question, Alexis Normand, ça veut dire qu'avec les objets connectés, on va acheter finalement la liberté des gens ?
Alors, les objets connectés, quand il s'agit de collecter des données sur soi-même, c'est toujours des données personnelles. À ce titre-là, elles sont encadrées par la loi informatique et liberté, qui date déjà de 1978. Cela veut dire concrètement qu'il est impossible que quelqu'un d'autre que vous ait accès à vos données. Elles sont protégées, à moins que vous donniez votre consentement explicite pour les partager. Et je vous dirais, l'intérêt qu'il peut y avoir à partager, peut-être avec son médecin, avec ses amis. Mais tout d'abord, et c'est vraiment le point le plus important, ça ne peut être accepté par les gens que s'ils sont maîtres et possesseurs de leurs propres données.
Alors, il y a la CNIL, cependant, la Commission nationale d'informatique des libertés, qui appelle à une mise en garde, qui appelle à une régulation. Est-ce qu'il faut absolument réguler ces objets connectés? Parce que assez vite va se poser la question de la limite.
La CNIL appelle pas forcément à une régulation, elle appelle à une vigilance pour que les utilisateurs sachent à qui ils donnent leur consentement. Donc il y a effectivement un effort important de pédagogie à faire pour expliquer aux utilisateurs l'intérêt qu'ils ont à garder leurs données personnelles et à faire attention à les partager s'ils le souhaitent à bon escient. Mais je pense que il faut pas se focaliser sur uniquement la question la protection de la donnée. Il faut d'abord et avant tout se demander pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement du public pour l'automesure, si on parle des objets connectés en matière de santé, ou sur la mesure automatisée que permettent en général les objets connectés. Je pense que avant de voir les risques, faut d'abord comprendre pourquoi il y a un besoin, pourquoi il y a un marché qui se crée autour, et je vous répondrai volontiers là-dessus.
Alors justement, on va poser la question à Bernard Benhamou. Les objets connectés, vrai engouement ou des besoins finalement qui sont créés?
Au départ, toute technologie se manifeste sous forme de gadget. Toute. Et à terme, elle devient et elle s'inscrit dans une réalité industrielle, dans une réalité sociale. Quelqu'un disait dans The Economist il n'y a pas longtemps, au départ on appelle ça quantified self, bientôt on appellera ça système de santé. C'est-à-dire que cela fasse partie, dans un avenir proche, de l'ensemble de la palette de soins, comme d'ailleurs nos voisins britanniques le font déjà, comme d'autres pays commencent à le pratiquer. On peut prescrire des objets connectés à des patients et cela rentre dans l'équation économique du soin. C'est évident que c'est la tendance lourde du moment. Donc, à l'évidence, beaucoup l'ont noté, les premières initiatives sont plus du domaine du bien-être, c'est ce que l'on appelle fitness well-being en bon français. Mais à terme, c'est évidemment du côté du diagnostic, du côté du soin, du suivi thérapeutique, voire même en guise d'allusion à une personne récemment décédée et qui avait beaucoup accompagné les amateurs de science-fiction, puisque vous citiez le terme, un certain Spock avait un appareil qu'il appelait le tricorder et qui permettait comme ça à main levée de faire un diagnostic d'une personne personne directement sans avoir besoin d'une grosse structure hospitalière. C'est vers cela que nous allons et c'est évidemment une révolution, au moins pour le système de santé, voire pour d'autres secteurs, l'énergie, les transports, etc.
Alexis Normand, l'aboutissement des objets connectés se fera dans le domaine de la santé, selon vous ?
Alors, évidemment, le numérique en santé comme ailleurs, c'est d'abord une désintermédiation, c'est la possibilité pour l'individu, le consommateur final, j'ose dire, s'approprier des choses avant réservées à des intermédiaires. Donc, avec les objets connectés en santé, c'est la possibilité pour chacun de prendre des mesures sur soi qui autrefois étaient réservées aux professionnels. J'ai un tensiomètre connecté, je peux faire de l'automesure. Maintenant, la société d'hypertension artérielle recommande que la mesure soit prise par les individus eux-mêmes. Donc, ce sont des tâches qui peuvent être déléguées du médecin vers l'individu. Le médecin s'intéresse d'abord à la maladie avec les objets connectés en santé. L'utilisateur s'approprie sa donnée, même quand il est en bonne santé, commence à s'intéresser, à se responsabiliser sur ces choses-là avant d'être malade. Et donc, surtout, il le fait de façon beaucoup moins coûteuse parce qu'il y a une révolution technologique. Tout le monde a maintenant un smartphone entre ses mains. Donc, il a une palette d'instruments. L'aboutissement, c'est effectivement que toute cette prévention, ces données qu'un individu peut accumuler sur soi-même permettent de générer des alertes, de la détection précoce, de la prédiction pour savoir d'abord comment adapter son comportement pour rester en bonne santé. Mais malheureusement, tout n'est pas de l'ordre de la volonté et donc simplement être prévenu à l'avance en cas de problème pour aller consulter à ce moment-là.
Alors cela pose un certain nombre de questions et notamment d'ordre juridique parce qu'on suit ainsi l'évolution de sa santé en temps réel. Or, aujourd'hui, la législation française, par exemple, interdit de moduler le tarif d'une assurance santé en fonction du comportement d'un assuré.
Alors, effectivement, et c'est très bien, et il faut que ça reste comme ça. L'idée n'est pas de renoncer à l'universalité d'accès aux soins. L'idée, c'est simplement de permettre de prévenir, d'inventer des nouveaux services récupèrent ces données, génèrent des alertes. Et évidemment, quand vous êtes en meilleure santé, vous générez une baisse de la dépense de santé. Et donc ça peut venir financer derrière des modèles institutionnels de prévention. Ça ne passe pas par une modulation du tarif d'assurance, ça passe par des tiers de confiance qui proposent des services innovants de prévention aux individus qui génèrent des économies en étant en meilleure santé.
Mais pour justement interférer avec les médecins, il va falloir légiférer, il va falloir consulter les pouvoirs publics. Je me tourne vers vous, Bernard Benamou.
Alors, j'aurais effectivement un propos qui rejoint celui qui vient d'être évoqué, mais en disant que ça ne pourra pas se faire tout seul. C'est-à-dire que la tendance naturelle, la pente naturelle des acteurs économiques, et en particulier des assurances et des banques, qu'on appelle le secteur prudentiel, sera d'insister pour aller vers un profilage, comme on dit là aussi en mauvais français, une précision plus grande sur le comportement des personnes. Est-ce que cela débouchera sur un changement de ce qui a été notre philosophie de la sécurité sociale? C'est-à-dire notre philosophie du soin où le risque est réparti entre l'ensemble des citoyens, c'est un vrai risque. Et donc je crois que là-dessus, les acteurs publics et les citoyens eux-mêmes, qui seront progressivement associés au débat, un peu comme ils l'ont été sur la bioéthique, devront l'être sur le mode de société, la nature de la société dans laquelle nous voulons rentrer. Et est-ce que nous voulons rentrer dans une société qui individualisera le risque à outrance, parce que la capacité que nous aurons à suivre, vous parliez de la voiture, qui devient un objet médical, qui n'est pas qu'un objet de transport, qui deviendra de plus en plus un objet de suivi et d'analyse des paramètres de vie et des paramètres biologiques d'une personne, typiquement, nous devons essayer de faire entrer ce débat. C'est un peu l'enjeu pour nous, Européens, qui sommes malheureusement en retrait par rapport aux grands offreurs de services sur Internet. Alors nous sommes ravis qu'il y ait des sociétés qui soient innovantes et qui puissent se développer dans ces domaines, mais nous sommes encore en retrait. Il nous faut éviter que les systèmes de soins, les modes de vie des citoyens soient dictés par les le code, non pas dans ce cas-là le code juridique, mais le code informatique élaboré de l'autre côté de l'Atlantique, ou même de l'autre côté du Pacifique maintenant.
Est-ce qu'il y a un risque finalement d'individualisation du système de santé en France, Alexis Normand, avec les objets connectés?
Nous, sur la base d'expériences très concrètes qui sont menées par des tiers de confiance aux États-Unis, on voit qu'il ne s'agit pas d'individualiser le risque, il s'agit de réduire le risque. Donc vous avez des...
Mais ça bouscule le système de santé français.
Il faut réaffirmer la notion de tiers de confiance. Quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin, il va vous prescrire un médicament, il ne transmet pas vos données à votre assureur. Néanmoins, c'est votre assureur, l'assurance maladie, en premier lieu, qui vous rembourse. Quand on ne parle plus de maladie, mais de comportement, il faut retrouver cette notion de tiers de confiance pour financer les comportements sains. Et ça, on le voit très concrètement dans les mécanismes de santé au travail que mettent en place les grandes sociétés américaines qui sont nos clients. Eh bien, il passe par un tiers de confiance qui va vous proposer un auto-diagnostic de votre santé. Vous allez, par exemple, découvrir que vous avez de l'hypertension artérielle comme 30% des adultes. Et à ce moment-là, il va vous proposer un système de gestion de votre santé, de réduction de votre tension, qui passe déjà par la connaissance de soi, par le fait de se mesurer. Et effectivement, il va vous envoyer des rappels qui vont générer une économie pour le système de soins, qui vont être financés par un système assurantiel. Mais ça repose sur la notion de tiers de confiance qui est fondamentale, et c'est par cela que passera l'acceptabilité.
Là, on parle quand même d'un système précis, le système de santé en France. Ça révèle surtout que l'évolution des objets connectés va se heurter à des barrières culturelles, Bernard Benhamou ?
Elle se heurte déjà à des barrières culturelles. Et vous notiez dans votre introduction à quel point il y a une inquiétude latente des usagers, des citoyens, par rapport à ces objets qui seront, au sens propre du terme, intimement mêlés à leur vie. Là où nous avons déjà beaucoup de notre vie qui est présente sur les réseaux sociaux, grâce aux moteurs de recherche, on peut savoir énormément de choses sur vous, parfois beaucoup plus que vous n'en savez parfois vous-même. Mais les objets connectés, c'est l'étape ultime. Donc l'inquiétude sur l'annihilation de la vie privée, elle est évidente. Il n'y a pas un rapport, il n'y a pas un livre consacré à ces sujets qui n'y fasse mention de façon importante. Mais, là encore... ce que l'on a vu dans la période récente, en particulier avec l'affaire Snowden, c'est que nous n'avons pas besoin des objets connectés pour être déjà à risque élevé de surveillance, de captation d'informations.
C'est un niveau encore supérieur,
exactement.
Les objets connectés.
Et donc, je dirais...
Mais jusqu'où va-t-on aller?
Exactement. Quelque part, ce qui vient de se produire avec l'affaire Snowden, c'est peut-être le meilleur des réveils par rapport à ce qui aurait pu être une forme d'acceptation tacite que l'on pourrait toujours maîtriser les systèmes informationnels autour de nous. Nous devons créer des technologies qui garantiront la sécurité, la confidentialité, le secret. Parce qu'il n'y a rien de plus secret que les données, effectivement, qui seront captées par ces objets présents en permanence, 24 heures sur 24, dans notre environnement, bien au-delà de la santé. On peut savoir énormément de choses sur une personne grâce à son compteur électrique intelligent, grâce à sa voiture connectée, grâce à un bâtiment connecté. On peut savoir des choses sur son mode de vie, sur sa religion, sur ses préférences philosophiques, voire même sur son orientation sexuelle.
Mais quel intérêt pour l'individu? Est-ce que c'est pas qu'une aubaine commerciale destinée? C'est un grand marché, hein. C'est plusieurs 13 milliards d'euros pour la prochaine décennie, hein, le marché des objets connectés.
C'est de très loin le plus important marché de restructuration des technologies et de quasiment tous les secteurs industriels.
Est-ce que c'est pas la première motivation du développement des objets connectés aujourd'hui?
À l'évidence. Et je vous rappelais la place, malheureusement.
Vous disiez qu'à la base, c'était des gadgets. Hein.
Au tout départ, comme toute technologie, les premières expressions en sont des gadgets. À terme, ce qui va se produire autour, par exemple, de la voiture connectée, c'est tout simplement une restructuration du secteur industriel de l'automobile. De la même manière pour l'énergie, où on voyait au départ, et on pensait au départ uniquement rationaliser la consommation avec des compteurs, etc. Et on se rend bien compte que le réseau électrique intelligent, ce sera peut-être la possibilité pour des acteurs de l'Internet de remplacer les acteurs traditionnels de l'énergie. Et c'est vrai de pratiquer. Regardez, il y a peu, Apple, non pas annoncé, mais laissé fuiter une possibilité de création d'une automobile Apple, et le secteur entier était en ébullition suite à cette rumeur. Et donc, à l'évidence, nous allons vers une restructuration bien au-delà des médias et des télécoms.
Alexis Normand, les objets connectés, leur développement va entraîner une profonde mutation de nos sociétés?
Alors, je le pense d'abord, encore une fois, je pense que l'objet connecté, c'est d'abord quelque chose qui s'adresse, en tout cas en santé, à l'individu, et ça ne doit pas être guidé par l'inquiétude vis-à-vis des données, parce qu'en fait, c'est la réappropriation par les individus de leurs propres données. Et c'est ça.
Et pas que par les individus, parce qu'il y a aussi, voilà, ça, ça peut graviter et ça peut. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent accéder à ces informations.
Aujourd'hui, vous avez peut-être un dossier médical partagé, vous n'êtes même pas au courant. Parce que c'est votre médecin qui prend des données sur vous. Tout d'un coup, à partir du moment où vous pouvez vous mesurer vous-même, vous vous réappropriez des choses.
Oui, mais on a l'impression qu'avec des objets connectés, il n'y a pas de limite.
Alors, effectivement, il y a beaucoup de progrès technologiques qui va permettre de capter de plus en plus de choses sur soi-même. Mais là où ça implique un bouleversement, un changement de paradigme en matière de santé, c'est quand l'information commence à être détenue par les individus. En fait, c'est aussi un changement, c'est un décentrement du système qui n'est plus un système géré pour les professionnels, mais pour les individus. Et ça veut notamment dire que, du coup, ne serait-ce que en santé, le financement de la santé aujourd'hui est à l'acte par le médecin. À partir du moment où vous pouvez accumuler sur vous-même des données, vous avez envie d'un suivi en continu. Donc, et ça vous paraît légitime, et certains hôpitaux le font déjà. Ça veut simplement dire qu'il ne faut plus rembourser la santé de la même manière à terme. Donc, ça implique également peut-être de décentrer l'endroit où se rembourse la santé, qui n'est plus simplement le jour où on est malade, mais le jour où on est dans des conditions qui peuvent vous rendre malade. Donc ça se déporte du médical vers d'autres acteurs qui peuvent être les infirmiers, les pharmaciens, qui peuvent être votre lieu de travail. C'est un vrai changement de paradigme. Et donc, en fait, on passe d'une certaine manière du dossier médical au carnet de santé. Et ça, c'est fondamental.
On va sortir du domaine de la santé pour généraliser davantage, mais est-ce que finalement, il n'y a pas le risque, on a parlé des menaces sur la liberté, mais Bernard Benhamou, il n'y a pas aussi le risque à un moment d'assister un peu trop les gens, de les déresponsabiliser avec cette multiplication d'objets connectés? On pouvait très bien vivre sans avant et on s'autogérait.
On pouvait vivre sans le mobile. On a du mal à imaginer comment nous vivions sans.
Donc c'est uniquement la suite du téléphone mobile, les objets connectés?
Je dirais que le mobile sera l'une des têtes de pont de connexion et de maîtrise de
tout
ces objets.
Ou presque par les smartphones.
Aujourd'hui, voilà, tout passe par des terminaux mobiles qui aujourd'hui prennent la forme de smartphones qui changeront. Mais il est vrai que la capacité à dessiner une société dans laquelle on enlèverait de plus en plus d'éléments de décision à la personne sous prétexte qu'on lui en apporte d'autres. Mmh. Parce que, en fait, il était question effectivement des capacités de prévision. C'est-à-dire que l'un des termes que nous n'avons pas prononcé ce soir, c'est le terme big data. Alors, je ne veux pas noyer encore, mais en tout cas, en gros, la capacité à gérer d'immenses masses d'informations sur les individus de manière à prédire leur comportement. La police de Los Angeles, un peu comme le film de Spielberg, Minority Report, fait effectivement de la prédiction de crime et est capable d'aller avant même que le crime n'ait lieu sur des zones où, statistiquement, il est censé se produire un crime. Et ça fonctionne.
Donc ça, c'est grâce aux objets connectés.
C'est grâce aux capteurs et surtout à l'analyse statistique et mathématique qui en est faite derrière, avec des algorithmes qui maintenant ont un véritable impact sur nos vies. C'est-à-dire que ces algorithmes qui prévoient notre comportement seront utilisés dans pratiquement tous les secteurs, y compris évidemment le secteur criminel, le secteur de la défense, le secteur de la vie urbaine, le secteur de l'énergie, enfin, à plein de niveaux différents.
Il faut en avoir peur. Si on prédit...
Alex Normand.
Et si on prédit qu'on diminue la criminalité, ça me paraît pas un recul sociétal.
Il y a des contrepoints. Un hacker peut bloquer le simulateur cardiaque de quelqu'un. Il y a une cybercriminalité également. Il y a Europol, l'Office européen de police, qui affirme qu'il va y avoir une vague de cybercriminalité dans le domaine des objets connectés. On peut pirater une serrure électronique, par exemple.
Voilà, les objets.
Quand vous pouvez acheter une maison, vous pouvez être cambriolé. Donc, à chaque fois que vous avez une nouvelle technologie, vous avez des craintes anciennes qui sont réactualisées par rapport à cette nouvelle technologie. Maintenant, il ne faut pas se laisser déborder par la peur. Pour prendre une analogie, quand on a commencé à avoir du paiement sur Internet, en France, tout le monde a dit « Oulala, c'est terrifiant, on va être hacké ». En attendant, les Américains ont créé PayPal, ils ont sécurisé ça, ils ont créé une énorme entreprise. Donc, le risque de se laisser déborder par ces craintes, c'est de laisser les solutions s'élaborer ailleurs.
Bernard Benhamou, votre réponse rapidement.
Que la phobie de ces objets et de ces technologies ait été pour partie à l'origine de notre retrait par rapport à ces secteurs industriels, c'est vrai. Qu'un objet connecté, comme le disait un journaliste il y a peu, lorsqu'il est connecté, il y a trois choses qui se produisent. D'une part, il devient un peu plus intelligent. D'autre part, il devient piratable. Et la troisième chose qui effectivement fait peur, c'est il ne vous appartient plus vraiment. Donc, c'est la capacité que nous aurons à se réapproprier ces objets qui définira l'Europe numérique et son futur.
Merci Bernard Benhamou, c'est effectivement un vaste débat de société et idéologique. Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut de la sauvegarde numérique. Merci à vous, Alexis, de la souveraineté numérique. Alex, merci beaucoup Alexis Normand, responsable du développement santé de la start-up Weezing. Ce débat est maintenant terminé. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet rfi.fr.